Horizonde sur Radio Vostok. En collaboration avec le programme Horizon Académique de l'Université de Genève.
Bonjour chers auditeurices et bienvenue dans cette troisième émission d'Horizonde. On vient tout juste d'entendre Bleu sous-marin de Flavien Berger. Et si à travers la musique vous n'avez pas encore compris, l'émission d'aujourd'hui s'annonce plus aquatique que jamais, puisqu'on va parler de la source de la vie, l'eau. Je ne suis pas seule au studio et avec moi mes deux chroniqueuses fidèles, Ludmila, bonjour.
Bonjour.
Alors tu vas nous parler de métaphysique en te penchant sur la mémoire de l'eau, n'est-ce pas ?
Carlo se souvient des substances qui la touchent même diluées à l'extrême.
Alors je me réjouis d'entendre tout ça. Et puis on est aussi avec Valeria, bonjour.
Bonjour.
Tu vas nous emmener voyager à travers le temps, à travers l'eau, n'est-ce pas ?
Oui, j'espère que ce sera un merveilleux voyage à travers les siècles.
Et pour finir, nous aurons un moment d'échange avec le photographe Nicolas Lieber qui vient nous parler de la pollution du lac à travers Plastic Clément, une exposition mélangeant l'expression artistique et scientifique. Une émission donc avec une playlist conçue spécialement autour de l'aquatique. On commence tout de suite avec The Beatles, Octopus Garden.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden. In the shade, he'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see. His garden in the shade. We would be warm below the storm
in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave.
Octopus's garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Horizonde sur Radio Vostok.
La semaine dernière, il faisait très très chaud à Genève et je vous avoue que comme toute bonne genevoise, je n'avais qu'une envie après mon cours de 18h, c'était d'aller me baigner au lac. Mais 5 minutes avant la fin du cours, qui s'avérait plutôt ennuyeux d'ailleurs, le prof nous présente en anecdote la pollution du lac Léman et nous dit en toute tranquillité qu'à notre place, il n'irait surtout pas se baigner dans le lac Léman. On dirait un peu qu'il a lu dans mes pensées et qu'il a voulu me gâcher ma soirée. Ce qu'il m'a dit ne m'a pourtant pas laissée indifférente. Je me suis renseignée un peu sur le sujet et il s'avère que pendant les 30 glorieuses, donc 45-70, le lac Léman a été contaminé par des isotopes radioactifs et cette contamination est due à des essais nucléaires qui débutent en 45. Les essais vont se multiplier à partir des années 60 et même si elles se déroulent dans d'autres pays, elles ont un impact direct sur l'ensemble de la planète et par conséquent la Suisse. Selon une étude de l'université de Bâle, le cesium, un radionucléide issu des essais pendant les années 60 a circulé dans l'atmosphère avant d'être rabattu sur le sol par les pluies. Et le lac Léman est loin d'être une exception de cette pollution des eaux, puisque le cesium 137 était présent dans les sédiments du lac. Bon, je crois que depuis des mesures ont été prises et que l'eau de Genève est très propre, mais n'empêche que la prochaine fois que je vais me baigner, je vais réfléchir peut-être deux fois avant de mettre la tête sous l'eau.
Between the two of us.
What the Water Gave Me de Florence and the Machine. Bon, je vous ai parlé avant de radioactivité potentielle dans le lac, mais je vous avoue que je me suis peut-être un peu trop emballée. En tout cas, Valeria est là pour m'expliquer l'histoire de la purification de l'eau pour que je puisse me baigner tout tranquillement dans le lac la prochaine fois. Valeria, on t'écoute.
J'étais toujours été émerveillée par la simplicité et la grandeur de l'eau. Imaginez un instant cette eau limpide et fraîche qui coule doucement dans un ruisseau ou le lac qui scintille sous le soleil. Mais l'eau, ce n'est pas seulement beau, c'est la vie, c'est notre santé, notre survie. Nous sommes littéralement faits d'eau. Tout cela m'a donné envie d'en savoir davantage.
Depuis quand exactement les humains ont-ils compris qu'il fallait purifier l'eau ?
Cela remonte à l'Antiquité, quand les gens ont remarqué que l'eau sale causait des maladies. Ce sont particulièrement les Romains qui m'ont été impressionnés. Imaginez ces immenses aqueducs en pierre majestueusement tendu au-dessus des vallées et des collines, acheminant l'eau pure des montagnes directement au cœur des villes. Cette eau arrivait dans des bassins spéciaux où elle se déposait lentement, après s'être délestée de la boue et du sable qu'elle contenait.
Ça ressemble presque aux technologies modernes.
Exactement, c'est impressionnant. À l'époque, l'eau passait déjà par des filtres de sable, de gravier et même à travers un tissu spécial appelé la manche d'Hippocrate, comme un grand sac en lien. Imaginez l'eau écoulant lentement à travers ce tissu, laissant derrière les moindres impuretés.
Et à Genève, comment cette purification a-t-elle commencé ?
À Genève, entourée par son beau lac et le Rhône majestueux, on n'a pas tout de suite pensé au problème de la pollution. Mais avec la croissance de la ville, le lac est devenu moins propre. Imaginez qu'au XIXe siècle, on a construit la première station de filtration près du lac, équipée de grands réservoirs et de filtres à sable. C'était comme d'immenses piscines où l'eau traversait lentement des pays de sable pour être nettoyée.
Et quelles étaient les étapes suivantes?
Ensuite, les technologies de filtration sont devenues encore plus perfectionnées. Imaginez l'eau passant par des couches de charbon actif qui, telle une éponge, absorbe les odeurs et les polluants. Puis, cette eau est enrichie de zones invisibles capables d'éliminer bactéries et virus. Enfin, elle est traitée par des rayons ultraviolets. Une lumière puissante mais sûre élimine tout micro-organisme restant. C'est presque magique.
Donc aujourd'hui, l'eau de Genève est parmi les meilleures au monde.
Oui, elle est souvent considérée comme l'une des plus pures et des plus savoureuses au monde. Quand nous buvons cette eau, pensez à l'incroyable histoire qui se cache derrière chaque gorgée. Une histoire faite d'attention à la santé et la pureté.
Des menhirs
Horizonde sur Radio Vostok.
On vient de naviguer à travers l'eau salée avec le chant de la mer de Véronique Chalot. Et cette fois-ci, on se plonge dans l'eau douce, puisque Ludmila, tu vas nous parler du Léman et de sa mémoire.
Oui, parlons de cette eau qui nous accompagne chaque jour. Car à Genève, on a cette chance. Le lac Léman est là, immense, tranquille et généreux. C'est un miroir, un terrain de jeu, une réserve précieuse. Et c'est aussi ce que nous buvons.
C'est vrai, on oublie parfois que l'eau du robinet vient du lac. Elle semble pourtant si claire, si simple. Tu t'es penché sur cette eau qu'on boit. Tu t'es appuyé sur les infos des SIG, non?
À Genève, près de 80% de l'eau potable provient du Léman. Elle est captée à environ 30 mètres de profondeur, puis filtrée, désinfectée et analysée chaque jour. Plus de 50 000 contrôles sont réalisés chaque année, selon les données des SIG. On peut donc le boire en toute confiance.
C'est vraiment impressionnant et un peu poétique aussi. Boire l'eau du lac, c'est comme boire un bout de paysage.
Exactement, Hélène. Cette eau qu'on retrouve dans notre verre a peut-être caressé les rives, glissé sous un pédalo ou traverse le Rhône. Et puis, elle circule, elle s'en va, elle revient. Elle fait partie d'un cycle immense. Et là, je pense à cette idée qui fascine et dévisse. La mémoire de l'eau.
Ah oui, cette fameuse théorie selon laquelle l'eau garderait une trace de ce qu'elle a rencontré.
Oui, certains scientifiques ont proposé que l'eau puisse se souvenir des substances, même une fois diluée à l'extrême. C'est controversé, ça touche à l'homéopathie, à la physique quantique. Mais ce qui m'intéresse au fond, c'est la métaphore. L'idée que l'eau porte quelque chose, des histoires, des émotions, des mémoires.
Et peut-être aussi nos souvenirs à nous, ceux des étés passés au bord du lac, des plongeons, des soirs d'été.
Oui, exactement. Pour moi, l'eau du lac, c'est aussi un lieu de retrouvailles. Chaque été, je retourne me baigner. L'eau est toujours différente et pourtant, elle me reconnaît. Et puis, ce jeu de mots de titre, l'eau d'ici et l'eau de là. C'est une invitation à aller plus loin, vers les autres eaux. Celle qu'on ne voit pas, celle d'ailleurs, mais aussi vers l'au-delà, ce qu'on ne comprend pas encore, ce que nous dépasse.
L'eau comme passage, comme mystère, comme mémoire. Merci beaucoup Ludmila pour cette plongée douce et profonde à la fois. Une dernière image pour finir.
Oui, cet été, quand vous boirez un verre d'eau ou quand vous plongerez dans le lac, souvenez-vous, vous touchez un fragment d'éternité. L'eau circule, mais elle reste. Elle nous traverse, mais elle ne nous quitte jamais. Et pour conclure cette chronique, je vous propose d'écouter Ocean, une œuvre du musicien SHMN, un morceau fluide et introspectif qui prolonge notre immersion dans le monde de l'eau, entre surface et profondeur. Thank you.
Cette courte pause musicale, on a pu se connecter avec Nicolas Lieber, photographe de Plastic Léman, une exposition qui mélange expression artistique, photographie et discours scientifique autour de la pollution du lac. Bonjour Nicolas, merci d'avoir laissé le lac quelques instants pour nous. Comment vous trouvez le lac aujourd'hui ?
Le lac est extrêmement beau, il est d'un calme absolu, il y a un petit peu de vent qui se lève maintenant. Et hier aussi, il était comme un nuage de vapeur. On était quelque part ailleurs.
Et la pollution du lac Léman, alors, est-elle réelle ? Parce que l'eau a l'air si pure, si calme.
Exactement. Et lorsque, en 2021, les deux conservatrices adjointes du musée du Léman m'ont contacté, Marianne Chevassu-Favet et Anne-Sophie Deville m'ont contacté pour illustrer leur prochaine exposition itinérante sur le plastique. Eh bien, j'étais moi-même totalement atterré des chiffres mis en avant, qu'il y avait 55 tonnes par année, 55 tonnes de déchets plastiques qui arrivaient dans le lac. Il est question maintenant de 100 tonnes par année, et à tel point que ces chiffres me paraissaient tellement hallucinants que même dans un journal j'ai lu, il y a Plastic Léman, il y a 55 tonnes de plastique dans le Léman. Il y en a juste 20 fois plus, mais ça c'est une autre question.
Ça fait clairement peur, mais du coup ce projet de Plastic Léman, est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu ?
Alors, d'abord, j'étais totalement ahuri de ces chiffres, et bien sûr que j'avais déjà vu des campagnes de sensibilisation sur la chose, mais très vite, et c'était une grande discussion qu'on a eue avec elle, très vite, on a quitté l'idée du sensationnalisme ou de la brutalité, telle que des tortues avec des sacs plastiques sur la tête, d'abord. On n'a pas de tortue, ces photos de cadavres de mouettes, ces photos très connues dont l'estomac était juste plein de plastique et de capsules et tout ça. Et très vite, j'ai voulu m'intéresser, j'ai voulu prendre la matière que j'avais sur place, c'est-à-dire les archives même du musée, ainsi que mes propres archives, parce que de mon côté, quasiment, j'ai presque 50 ans d'archives photos. et je les ai mises ensemble parce que pour moi le lac, un peu comme vous le dites, c'est un très bel objet, il est beau et tout ça, il est doux. Pour moi il est doux le lac et c'est un objet aimé. Il est doux et c'est un objet aimé et je voulais garder ce souvenir que j'ai du lac et cette impression que j'avais. Ainsi j'ai pris des photos, un peu des photos souvenirs dans les archives du musée du Léman, des photos amateurs. J'ai pris mes propres images en essayant de recouvrir toutes les activités du lac, qui est une compréhension un peu...
large, on va dire.
Voilà, une prise en compte de tout ce que le lac a comme activité. Pour certains, c'est les loisirs, mais pour d'autres, ce sont du travail ou bien du transport. Et j'ai à chaque fois juxtaposé une de mes images avec une photo d'archives du musée. Parfois, mes images étaient plus anciennes que celles que j'ai trouvées dans les collections. Et j'en ai fait des, et ensuite je les ai parsemées d'objets plastiques grands ou petits, ça dépend. J'ai beaucoup travaillé sur les échelles à ce propos. Et je les ai parsemés comme pour dire que nos souvenirs sont parasités de plus en plus par des plastiques qui polluent finalement autant l'eau que nos souvenirs.
Et au niveau graphique, ça se sent puisqu'il y a ce mélange, comme vous dites, de photos et de matières différentes. Pour trouver les matières du plastique, vous êtes allé les chercher directement dans le lac ou vous avez pris quelle matière?
Alors c'est extrêmement simple. Je me suis promené quelques hivers durant, un seul hiver. Je me suis promené sur les bords du lac entre Prangin où j'ai grandi et Nyon où il y a le musée du Léman. Et j'ai simplement collecté tout ce que je trouvais par terre, quoi. Tout ce que je trouvais par terre au bord du lac sur quelques plages. Et c'était juste, j'en avais pour 20 expositions en quelques heures, quoi. Et en plus Ocean Ice, cette organisation qui fait le même travail aussi dans les océans et qui met en avant justement le danger de cette pollution, le danger, en tout cas la présence de cette pollution totalement invisible, m'a donné des prélèvements qu'ils ont fait dans le lac même, donc des microplastiques qui ne dépassent pas le millimètre et qui flottent entre deux eaux, enfin qui est dans l'eau en fait. Ça flotte pas comme une bouteille de PET. Voilà.
Justement, l'exposition, elle traite la problématique de la pollution de l'eau de façon très ludique et ça mêle l'artistique et le scientifique. C'était comment de collaborer avec Ocean Eye?
Alors, d'abord, j'ai été très bien reçu par Ocean Eyes. Avant même de parler de cette collaboration, Ocean Eyes a surtout travaillé avec les collaborateurs du musée du Léman, mais ils m'ont fourni tout ce dont j'avais besoin. Vous parliez du côté ludique et ce que je trouve intéressant, que le graphiste avec qui nous avons travaillé, Gilles Bondala à Genève, aimait bien ce titre Plastique Léman, qui a un nom un peu qui résonne pour les gens des années 80 ou 80, ouais, des gens des années 80. Il y avait un chanteur qui s'appelait Plastique Bertrand, que tout le monde connaissait à l'époque, qui a un peu disparu, toujours vivant, mais qui a un peu disparu des horizons.
Tout à fait.
Et c'était une chanson hyper à la mode qu'on aimait tous. Et Gilles Bondala, le graphiste, en plus, a repris une typographie, un lettrage type Playmobil, qui sont ces jouets qui arrivent dans les années 70. Moi, je suis déjà un peu trop grand pour m'amuser à ça, mais ils arrivent en masse, ces jouets Playmobil. Donc, il y a ce côté un peu Playmobil, ce côté de l'objet, du jeu facile, et qui va très bien avec, comme Plastique Bertrand, qui vient très bien, je dirais, avec une certaine nonchalance de l'époque, et aussi un m'en-foutisme total quant aux ordures qui pavaient nos routes et nos chemins. Voilà.
Alors, tout ce que vous nous dites, ça nous donne envie de revoir cette exposition. Elle a déjà eu lieu dans l'Arc Lémanique à Genève et à Nyon. Est-ce qu'elle va encore tourner ?
Alors, elle va encore tourner. Je n'ai malheureusement pas de nouvelles à vous donner de ce côté-là. J'ai pas pris le temps d'appeler le musée du Léman pour savoir quand elle ira ailleurs. Mais il est question qu'elle continue de tourner. Ce sont des grands panneaux exposés en plein air, format affiche, format mondial, où les gens ont envie de prendre ces morceaux de plastique qui pullulent sur ces images d'antan, qui pullulent sur ces 12 panneaux, et où les gens, avec les mains, essayent d'enlever ces petits morceaux, parce qu'ils ont l'air d'être en 3D à cause de l'ombre, à cause de la manière dont ils ont été photographiés. Et j'espère que ça va très vite être encore quelque part.
Eh ben nous aussi, on espère très vite de revoir cette exposition. Je vous remercie, Nicolas Liber, d'avoir été avec nous pour nous parler de Plastique Léman, une exposition, je rappelle, qui sensibilise sur la pollution de l'eau et de l'eau du lac.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Vostok.
Et c'était Requin Chagrin. Chers auditeuristes, cette troisième émission arrive malheureusement à la fin. Je remercie toute l'équipe des Horizondes. Un grand merci à mes deux chroniqueuses qui m'ont accompagnée pendant tout au long de cette série d'émissions, Valéria et Ludmila. Et puis, merci à la technique Léonard Blanc qui nous a accompagnés pendant cette troisième émission. Et surtout, merci à Mélanie Chapuis pour la production et la coordination de l'émission. Nous, on va se baigner au lac, mais on vous dit merci et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
On vous laisse avec Riverside d'Agnès Obel.
trays, look at the stones on the river bay. I can tell from your eyes, you never been by the riverside. Down by the water, the river bay, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day.
Sur Radio Vostok. En collaboration avec le programme Horizon Académique de l'Université de Genève.